toutes et à tous. Il est 15h, passé de 1 minute déjà. Je vous souhaite la bienvenue sur Fréquence Mistral et j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios aujourd'hui Dominique pour un nouveau numéro de Voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Coucou, bonjour.
Aujourd'hui, eh bien, un voyage assez loin d'ici quand même. Hein. On va se déplacer jusqu'en Alsace.
Traverser tout.
Et alors, petite précision, Dominique m'a demandé de...
vous demande plutôt de
l'excuser pour la prononciation. Moi, j'ai un très mauvais accent provençal et apparemment, Dominique est fâchée avec l'alsacien.
Et oui, je suis désolée
bon,
pour...
On te mettra une note à la fin de l'émission.
La prononciation, je ne la garantis pas. J'ai le sentiment, j'ai le cœur, mais je n'aurai pas certainement la bonne réponse.
Et aujourd'hui, donc, un conte, ça s'appelle La légende de Till.
Oui. Il s'agit de la vie insensée et tumultueuse d'un candide escroc. Tu vois, ça va être un petit garçon qui grandit continuellement en faisant des bêtises, des aventures. Et c'est un opportuniste, en fait. Hein. Voilà, donc on va s'en rendre compte de ce jeune petit garçon qui grandit dans l'escroquerie, on peut le dire.
On est pressé de découvrir ce fameux Till.
Till est le type même du mauvais plaisant, du bouffon. C'est la personnification de la farce assaisonnée au gros sel. Il réunit l'imbécilité caustique et la naïveté rabelaisienne. On peut le placer sur le même plan que le baron de Krak, l'archimenteur et le docteur Faust qui, à l'aide du diable, accomplit les choses les plus surprenantes. C'est tout dire. La tradition populaire a rendu immortel. Nos ancêtres ont ri de ses faits et gestes, nos enfants en riront. Ses réponses sont souvent marquées au coin du bon sens. Ses mots ont quelquefois une portée philosophique. En somme, l'histoire de cette vie si vagabonde, si accidentée, si bien remplie, est aussi intéressante et aussi instructive pour les grandes personnes que pour les enfants. Till était le fils d'un brave paysan, Nicolas Eulen Spigiel, de Ipsheim, petit village situé non loin des bords du Rhin dans la basse Alsace. Le jour même de son baptême, il lui arriva sa première mésaventure qui, heureusement pour lui, n'eut pas de suite fâcheuse. À cette époque, comme d'habitude, comme peut-être de nos jours encore, d'aller ou sortir de l'église, boire un coup à l'auberge voisine pour se remettre des émotions de la cérémonie. Cette noble coutume avait été rigoureusement suivie par les parrains et marraines de Till, mais il faut croire que la marraine but un peu plus qu'elle ne pouvait en supporter, car au moment où elle traversait la passerelle de la cour, elle fit un faux pas et tomba avec l'enfant dans un énorme tas de fumier. C'est ainsi que Till fut baptisé trois fois le même jour, d'abord avec de l'eau bénite, puis avec du purin, puis enfin avec de l'eau chaude en guise de purification. Ce fut peut-être là la cause de sa précocité extraordinaire. Il avait à peine 4 ans que déjà les voisins se plaignaient à ses parents de tous les mauvais tours qu'il leur jouait. Quand il arrivait à son père de le gronder, il savait se disculper avec une telle adresse qu'on l'aurait dit aussi innocent que l'enfant qui vient de naître, et toujours de nouvelles plaintes succédaient aux anciennes. Un jour, son père, ayant une course à faire dans les environs, sella son cheval, prit-il en croupe derrière lui et traversa le village au moment où les paysans revenaient des champs. Que fit alors ce garnement? Il leur montra tout son derrière d'un geste si indécent qu'ils se mirent à l'injurier. « Vois-tu, dit-il à son père sans se déconcerter, comment ils sont méchants envers moi. Je suis là, assis, bien tranquille, derrière toi, et dès qu'ils me voient, ils me disent des sottises. » Pour couper court, le père le plaça devant lui. Et aussitôt, Till se mit à tirer, au passant, une langue longue d'un aune, chose que naturellement le vieux ne pouvait voir, et les paysans de l'injurier de plus belle. « Oh, tu es décidément né d'un mauvais jour de malheur, » dit le père, convaincu de l'injustice de ses procédés. Et tous deux s'en retournèrent à la maison. À quelque temps de là, le père Eulen Spigiel mourut, enlevé par une maladie de langueur qui avait été provoquée par les nombreuses sottises que ne cessait de commettre son incorrigible rejeton. Il laissait ses affaires très embrouillées et bientôt après, il fallut vendre cheval, voiture, champs et prairies, si bien qu'à 16 ans, Till se trouva seul avec sa mère dans un état voisin de la misère. Il ne connaissait absolument rien, ne savait ni lire ni écrire, mais par contre, excellait à faire des malices. Un jour, sa mère le surprit pendant qu'il était en train de marcher sur une corde qu'il avait tendue à travers la rivière. Un nombreux public l'entourait. Furieuse, elle se précipite, un couteau à la main, et d'un seul coup, elle trancha la corde. Notre saltimbanque improvisé piqua une tête dans la rivière sans se faire aucun mal, car l'eau était profonde. Et quand il gagna le bord, mouillé comme un barbet, il fut accueilli par des rires et des sarcasmes. Cette réception ironique le toucha plus que le bain forcé que sa mère lui avait fait prendre. Aussi rentra-t-il chez lui tout penaud, en réfléchissant moyen de se venger de l'affront qu'il avait reçu. À cet effet, il tendit le lendemain la même corde à travers la rue, réunit tout ce qu'il put de gamins qui flânaient, en leur promettant de leur faire voir un joli jeu avec des souliers. Tous ôtèrent leurs chaussures et les lui donnèrent. Il les réunit paire par paire, puis, les accrochant en fil à la corde, il se mit à danser par-dessus. Et quand il vit que les spectateurs commençaient à être inquiets sur leurs souliers, qu'ils réclamaient à corps et à cri, il couba subitement la corde et tous les souliers tombèrent terre pêle-mêle. Pendant un quart d'heure, il put rire à gorge déployée de la bataille qui s'ensuivit entre les gamins, qui étaient chacun à la recherche de son bien. « Voilà pour vos sarcasmes d'hier !» dit-il en s'en allant, très content de lui. Un autre jour, il s'était rendu à la foire du voisinage, et là, à force d'aller d'auberge en auberge, il finit par être complètement ivre. Cherchant un endroit solitaire où il put cuver son vin tranquillement, il avisa une série de ruches à miel, au nombre desquelles il y en avait de vides. Il s'installa dans l'une d'elles et dormit à point fermé jusqu'à la nuit tombante. Il allait sortir de son gîte improvisé quand il entendit des pas et des voix. C'étaient deux voleurs qui venaient s'emparer d'une des ruches. « La plus lourde sera la meilleure !» disait l'un en s'approchant. Et après les avoir examinées une à une, ils trouvèrent à leur convenance celle où était notre dormeur. Il faisait nuit sombre. Voilà les deux voleurs emportant la ruche, l'un devant, l'autre derrière, à la manière dont les Chinois portent les palanquins. Soudain, Till sort un bras par la petite ouverture et tire violemment les cheveux de celui qui était par devant. Naturellement, celui-ci se figura que c'était son compagnon qui venait de la lui faire cette sotte plaisanterie. Et se mit à jurer et à sacrer. Oh, « Mais je crois que tu rêves !» dit l'autre. « Comment veux-tu que je te tire par les cheveux? Mes deux mains sont assez occupées à soutenir la ruche qui pèse un poids colossal. » Un instant après, Till tira les cheveux du dernier, qui devint encore plus furieux que son acolyte. « Oh, misérable vaurien !» hurla-t-il. « Je porte un poids à m'en rompre toutes les veines du cou et tu es assez bête pour me tirer les cheveux ?»« Bon, je crois que tu es fou. »« Tu mens, » répondit l'autre. « Je n'ai pas le loisir de penser à de pareilles absurdités. C'est à peine si je puis reconnaître mon chemin tant il fait noir. » Et ils continuèrent ainsi à s'injurier et à se disputer tout en marchant à tâtons. Jusqu'à ce que Till tira de nouveau le premier des voleurs, mais avec une telle violence que sa tête vint cogner contre la ruche. « Alors ?» Perdant patience, celui-ci laissa tomber son fardeau par terre et se rua avec rage sur son camarade qui, pour parer le coup, lâcha également sa charge. Les voilà s'administrant tous deux la plus belle des raclées du monde pendant que Till sortait tranquillement de sa cage et regagnait en riant la maison paternelle.
Thank you.
il ne travaillait pas et par conséquent ne gagnait rien, les produits du rouet de la vieille mère étaient plus qu'insuffisants. Et bien souvent, il n'y avait pas un morceau de pain à la maison, c'était à de choses déplues à Till. La faim fait souffrir. Aussi un jour, s'armant de résolution pour remédier à un jeûne qui menaçait de se prolonger, il prit un vieux sac qui avait un trou dissimulé sur le côté. Et puis, il s'en alla à Horfenden, où il n'était pas connu. Entrant dans la boutique d'un boulanger, « Je viens, dit-il, chercher de la part de mon maître qui loge au bœuf rouge 3 écus de pain. Si vous voulez me confier les miches, votre apprenti m'accompagnera et mon maître lui remettra l'argent. » Le boulanger, sans méfiance, remplit le sac de pain pour la somme convenue et il partit avec le mitron. En route, notre vaurien laissa tomber un pain par le trou caché. Il avait choisi pour cela un endroit bien sale et bien boueux. « Mais je n'oserais jamais présenter ce pain mouillé, souillé à mon maître, » dit-il à l'apprenti qui avait déjà ramassé le pain, était en train d'essuyer du revers de sa manche. « Cours vite chez ton patron et apporte-moi-en un autre, je vais t'attendre ici. » Le jeune homme se laissa convaincre, retourna à la boutique en toute hâte et, quand il revint avec un nouveau pain, il avait disparu. Il se rendit à l'auberge du Bœuf Rouge. On ne connaissait ni maître ni domestique. Le boulanger, quand il sut cela, comprit un peu tard qu'il avait été dupé. Rentré chez lui, Till remit les pains à sa mère, qui ne pouvait assez le remercier et l'encourager dans cette bonne voie. Mais il se garda bien de dire de quelle manière il les avait récupérés et effectivement comment il se les était procurés. Un beau matin, désireux de voir le monde, le modeste horizon de son village ne suffisant plus à ses vastes conceptions, il embrassa sa vieille mère et, un bâton à la main, il se mit en route pour l'inconnu, sans autre ressource que sa malice, dont il avait ample provision. Au XIVe siècle, on ne connaissait pas encore les guides imprimés, les itinéraires, les cartes et les poteaux indicateurs. Quand on voyageait d'un point à un autre, c'était un peu au hasard. En partant, on pouvait faire son testament, car on n'était pas plus sûr d'arriver que de revenir. Oh, mais il ne s'inquiétait pas de si peu. « On trouve partout du pain à manger », se disait-il philosophiquement. Il arriva ainsi à un village badois où le curé le prit comme domestique. Il parut très heureux de cette chance, mais sa joie ne dura guère, car autant il plaisait au curé pour sa gaieté et ses bons mots, autant il était antipathique à la vieille gouvernante qui mit à son maître le marché en main d'avoir à choisir entre elle et lui. Le curé ne pouvait hésiter et, après avoir payé ses gages à Till, qui avait passé 2 mois à servir la messe, à sonner les cloches et à cultiver le jardin, il le congénia en lui souhaitant bonne chance et bon voyage. Voilà de nouveau l'aventurier sur le pavé. Ses nippes sous le bras, il arriva, après un long voyage rempli de péripéties, à Magdebourg. Mais déjà, la réputation de ses drôleries l'avait précédé. Quand on sut que Till Eulen Spiegel logeait à l'hôtel du Plat d'Argent, une députation d'ouvriers vient lui rendre visite en grande pompe, le priant de leur donner un échantillon de son savoir, en accomplissant quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. « Bon, » répondit-il, « demain matin, vous me trouverez sur le toit de la maison communale, et quand vous serez tous réunis, je volerai à terre. » Cette nouvelle, comme une traînée de poudre, se répandit dans toute la ville, et le lendemain, la moitié de la population se trouvait réunie devant l'hôtel de ville pour jouir de ce prodige. Chacun ouvrait les yeux et la bouche. Voilà enfin Till qui paraît sur le toiture, qui avance ses bras comme s'il allait voler, puis se ravisant et s'adressant à la foule qui grouillait à ses pieds. « J'avais cru jusqu'à ce jour, dit-il, que j'étais le seul insensé qu'il y eût sur terre. À présent, je vois que la moitié de Magdebourg pourrait porter le bonnet à grelot. Vous m'auriez tous assuré que vous saviez voler, je vous aurais ri au nez en vous traitant de menteur et de fou, car sans plume et sans aile, personne ne saurait traverser les airs. » Et sur ces mots, il disparut. La foule s'écoula honteuse et confuse en disant « C'est un misérable, c'est un misérable, mais il a raison. » Plus tard, à Nuremberg, où Eulen Spiegel s'était fait annoncer à son de trompe comme un célèbre docteur qui guérissait toutes les maladies, il eut une autre aventure. L'hôpital était bondé de malades et le directeur aurait volontiers voulu se débarrasser d'une grande partie de ses pensionnaires. Il alla donc trouver Till qui lui assura de la guérison complète en un seul jour de tous les malades de l'hôpital et qui, pour cela, ne demanda que 100 écus d'honoraires payables seulement après la réussite de ses cures. Le directeur enchanté conclut le marché et lui donna 10 écus comme art. Dès le lendemain matin, le nouveau docteur visita un certain nombre de malades et, s'adressant à chacun d'eux en particulier, leur dit « Ce que je vais vous découvrir doit rester un secret entre vous et moi. Pour vous guérir tous, il faut que je sacrifie le plus malade d'entre vous, car avec le produit de ses os pulvérisés, je composerai un remède qui remettra immédiatement les autres sur pied. Faites donc bien attention cet après-midi quand le directeur vous appellera. » Et tâchez de ne pas être le dernier à vous lever pour qu'on ne vous prenne pas pour justement le plus malade. Quand l'heure solennelle fut arrivée, le directeur se rendit au dortoir, suivi du docteur. « Tous vos malades sont guéris, » dit ce dernier. « Ouvrez la porte et engagez ceux qui se sentent guéris à sortir. Vous verrez qu'il n'en restera pas un seul. » Le directeur suivit exactement la prescription et tous les malades à la fois se levèrent et se sauvèrent. L'espigel se fit compte le reste de ses honoraires et s'en alla au plus vite. 2 jours après, les malades revinrent à l'hôpital, plus souffrants que jamais, en expliquant la raison pour laquelle ils s'étaient sauvés avec tant d'empressement. Mais le faux docteur était déjà loin. Il gagna Strasbourg et entra comme mitron chez un boulanger de la Cruteneau. Pendant 2 jours, il travailla d'arrache-pied avec son nouveau patron. Le 3e jour, son maître lui dit « Ce soir, tu cuiras tout seul. Je ne t'aiderai pas, car je me sens un peu fatigué et je vais aller me coucher. »« Je suis tout prêt, » répondit Eulenspiegel. « Mais que faut-il cuire ?»« Tu es garçon boulanger, tu me demandes ce qu'il faut cuire ?»« Mais que cuit-on généralement ? Des chats et des hiboux ?» Tils le tint pour dit. Et aussitôt son patron au lit, il se mit à façonner avec la pâte du pain, des petits chats et des hiboux. Puis, ce travail terminé, il mit le tout dans le four. Le lendemain matin, quand le boulanger descendit et vit le travail de son garçon, il devint furibond, l'empoigna au collet et le secouant comme un prunier. « Oh, fichu vaurien !» lui dit-il. « Que veux-tu que je fasse avec le produit de ton ouvrage de cette nuit ? Personne ne voudra m'acheter cela !»« Maître !» répondit Eulenspiegel, toujours en pleine possession d'à propos, « abandonnez-moi cette fournée de chats et de hiboux et je vous paierai comme ça que votre farine. » Le boulanger, trop heureux de rattraper l'argent de sa farine, accepta le marché et envoya-t-il à tous les diables. Celui-ci, aussitôt dans la rue, se rappelant que les Strasbourgeois étaient tous des badauds très friands de nouveautés, se rendit sur la place du marché et mit en vente ses petits pains en forme de chat et de hibou. 1 heure après, tout était vendu avec un beau bénéfice. Ensuite, il se mit en route pour Heidelberg. Arrivé dans cette ville, il revêtit une longue redingote, mit un grand chapeau sur sa tête et alla rendre visite à tous les professeurs de l'université, se nommant comme un des leurs, c'est-à-dire un collègue d'Alsace. Il leur proposa de se soumettre à un examen durant lequel on pourrait lui poser les questions les plus ardues et les plus difficultueuses. Il se chargeait de les résoudre toutes, sans exception. Au jour fixé, en présence de toutes les facultés réunies, Till parut à la barre, et le recteur de l'université, prenant la parole, lui posa les quelques questions suivantes. « Combien la mer renfermait-elle de gouttes d'eau ?» La réponse fut à la hauteur de la demande. « Si vous pouvez faire en sorte que tous les ruisseaux, rivières et fleuves qui se jettent dans la mer cessent de couler pendant un quart d'heure, je me chargerai dans cet intervalle de mesurer de l'eau de mer avec une telle précision qu'il ne manquera pas une goutte à mon calcul. » Le recteur reprit. « Combien de jours se sont écoulés depuis la création d'Adam ? Seulement 7 jours. Quand ceux-ci sont passés, il en revint 7 autres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du monde. Bon, alors, où se trouve le milieu de la terre ? Ici, à la place où je me trouve. » Si vous ne me croyez pas, prenez une corde et mesurez la circonférence en partant de ce point. Si je ne me trompe de l'épaisseur d'un cheveu, je m'avoue un âne. Quelle distance y a-t-il de la terre au ciel ? Oh, une distance si minime que quand on en parle sur la terre, on l'entend du ciel. Pour vous en convaincre, montez-y et je vous appellerai d'ici. Si vous ne m'entendez pas, eh ben je me reconnais vaincu. La savante université était confondue. Décidément, Till était plus retors, plus malin et plus fin que tous réunis. On le congédia avec force, honneur et même félicitations. Le voilà de nouveau, traversant monts et vallées pour voir du pays. L'argent qu'il gagnait par ses malices étant aussitôt dépensé follement, il se trouvait toujours à sec et par conséquent se voyait toujours dans la nécessité de recommencer ses tours de bâton. Il s'arrêta à Marienthal, où il y avait un couvent de femmes. Le jour de son arrivée était précisément jour de marché, bonne aubaine qu'il ne fallait pas laisser échapper. S'adressant à une marchande qui lui paraissait assez naïve, Till lui dit « Combien vendez-vous votre paire de poulets que je vois là, dans le panier, à côté de ce coq éthique ?»« 4 gluten, » fut la réponse. « Bon, ne pourriez-vous pas me les laisser à meilleur compte ?»« Non. » Et voilà Till qui prend le panier avec tout son contenu et se dirige à la sortie du village. Mais la femme, qui ne se payait pas de cette monnaie, lui courut après en lui criant « Hé, dites donc, bourgeois, vous ne m'avez pas soldé mes poulets ?»« Mais je ne demande pas mieux que de les payer, » répondit-il. « Je suis le nouveau secrétaire de l'abbesse du couvent. Vous n'avez qu'à m'accompagner. »« Mais je ne connais pas votre abbesse, » reprit la marchande, « et n'ai rien à démêler avec elle. Payez-moi, sinon je m'accroche à votre habit et je ne vous laisse pas partir. » « Oh, bah, puisque vous le prenez sur ce ton, je vais vous laisser en gage le coq. De cette manière, vous serez certaine que je reviendrai vous apporter votre argent et votre panier. » La sotte femme accepta ce marché, prit son propre coq en gage et attendit vainement le retour du filou. Cherchant à se faire oublier pendant quelque temps, il entra à Brumat, chez un forgeron, comme garçon de forge, en cachant soigneusement son identité. Mais, chassé le naturel, il revient au galop. Quand, le lendemain de son installation, son maître vint le réveiller à la pointe du jour pour qu'il se mît à l'ouvrage, Till trouva cette exigence un peu sévère. Sur l'observation qu'il en fit, le forgeron lui répondit « Telle est mon habitude. Les premiers 8 jours, j'exige que mes ouvriers ne dorment que la moitié de la nuit afin de s'habituer au travail. » L'autre ne dit mot, mais quand la nuit suivante on vint de nouveau le réveiller, il se leva, s'attacha le matelas sur le dos avec l'oreiller et la couverture, descendit ainsi harnaché à la forge et se mit à forger et à battre sur l'enclume comme un enragé. Survint le patron qui demeura stupéfait devant cet accoutrement. « Mais que veut dire cette plaisanterie » cria-t-il. « Tu es donc un diable incarné ?»« Maître, » riposta-t-il, « telle est mon habitude. Je passe la moitié de la nuit étendue sur moi. » Il n'y avait rien à répliquer. Content de sa réponse, Till alla se débarrasser de son attirail. Et quand il revint, son maître, qui s'était radouci, lui ordonna de souder tout ce qui était à souder dans la forge et ensuite d'abattre le plus grand nombre de clous possible. Till prit cet ordre à la lettre et, réunissant tous les outils qui se trouvaient sous sa main, marteau, tenaille, cisaille, crochet, écrou, etc., il souda le tout ensemble. Puis il prit tous les clous qui étaient dans la boutique et il en abattit consciencieusement les têtes. Prévoyant la réception que son maître lui ferait en présence de ce beau travail, il fit un paquet de ses hardes et s'apprêta à lever le pied quand soudain il lui vint une inspiration sublime. Son nom, Eulenspiegel, avait une double signification. En amant, Eul veut dire hibou, et Spiegel, miroir. Se servant donc de ces deux symboles, il dessina sur la porte avec de la craie un hibou fantastique qui, dans une de ses griffes, tenait un miroir avec ses mots comme légende. Hic fuit, puis, prenant ses jambes à son cou, il disparut. Quand le forgeron rentra, il faillit tomber à l'envers, l'indignation le suffoquait. « Oh, voilà du joli !» vociféra-t-il en s'arrachant les cheveux de désespoir. « Mais où est-il que je l'étrangle, ce méchant drôle qui m'a tout habillé ?» Ce fut encore une autre affaire, quand il aperçut la caricature qui se trouvait sur la porte. C'était pour lui une énigme indéchiffrable. Désirant en avoir le cœur net, il courut chercher le maître d'école qui, après l'avoir calmé, lui expliqua clairement la chose. « Eulenspiegel a passé par ici. Voilà ce que voulait dire ce rebut. » Pareil à l'ouragan qui détruit tout sur sa route, Till avait laissé les tristes traces de son passage. Le forgeron se consola en se disant qu'il était bien heureux et que cet aventurier de malheur ne fut resté chez lui que 2 jours. De là, Till se rendit à Colmar et descendit à l'auberge de la Licorne sur la place du marché. Non loin se trouvait une boutique de tailleurs qui avait installé ses 3 ouvriers sur une espèce d'échafaudage soutenu par de forts poteaux. Chaque fois que Till sortait pour aller faire un tour de promenade, ses 3 chevaliers de la couture se moquaient de lui et lui lançaient des chiffons avec force quolibets. « Oh, vous me paierez cela, mes gars !» dit-il in pinto. La nuit venue, il scia les 4 poteaux qui soutenaient la plateforme. Et quand, le matin, Les ouvriers se furent assis comme d'habitude, chacun à sa place respective. Till se mit en embuscade et attendit l'occasion propice qui ne se fit pas attendre. Au bout de quelques minutes, un paysan vint à passer, conduisant un troupeau de porcs. Voilà Till qui se précipite au milieu de ses animaux en poussant « Hourra !» sur « Hourra !» si bien qu'il finit par effrayer toute la bande qui se dispersa en tous sens. Les plus pressés en se sauvant se cognèrent contre les poteaux qui ne tenaient plus et les tailleurs dégringolèrent du haut de leurs échafaudages au milieu des porcs. Bullenspiegel était vengé, mais il continua à vouer à la corporation des tailleurs une haine profonde. Aussi, à peine arrivé à Mulhouse, prit-il la résolution de leur jouer une farce qu'il se rappellerait pendant longtemps. À cet effet, il fit parvenir une missive à tous les tailleurs des pays environnants, les invitant à se rendre à Mulhouse, où lui, célèbre inventeur, venant des lointaines contrées, se chargeait de leur apprendre une chose dont eux et leurs descendants tireraient grand profit. Cette nouvelle se répandit jusque dans les plus petits hameaux, et à quelque temps de là, sur tous les chemins qui conduisaient à Mulhouse, on ne voyait que tailleurs se rendant à la réunion de Till. Quand ils furent tous rassemblés sur la grande place de l'homme de fer, Till monta dans une maison voisine et, se montrant à la fenêtre du premier étage, les harangua en ces termes. « Honorable maître de la coupe, quand vous possédez des ciseaux, des aiguilles, un dé, un mètre et un fer à repasser, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour être un tailleur respectable. » Et pour obtenir cela, il n'est besoin ni de malice ni de science. Mais là où réside la science, c'est dans ce que je vais vous apprendre. Aussitôt que vous avez enfilé votre aiguille, n'oubliez jamais de faire un nœud au bout de votre fil, sinon vous risquez de faire bien des points inutiles. Puis il cessa de parler. « Bon, est-ce là tout ce qu'il a à nous apprendre ?» crièrent les enqueurs, les tailleurs. Nous savions de longue date ce qu'il fallait nous annoncer comme une science nouvelle. Ce n'était pas vraiment la peine de faire une dizaine de lieues pour venir jusqu'ici nous laisser berner ainsi. Till reprit. Puisque je vois qu'au lieu de me remercier, vous accueillez avec malveillance ma communication, eh bien, retournez donc d'où vous venez et laissez-moi tranquille. Je suis Till en personne. Sur ces mots, il ferma la fenêtre et disparut par une sortie qui donnait sur une petite ruelle, pendant que les tailleurs, furieux d'être joués, prenaient la maison d'assaut, décidés à faire un mauvais parti aux drôles qui, depuis tant d'années, tenaient toute la salle en éveil. Ils en furent pour leur peine. La cage était vide. L'oiseau avait gagné le large. Plus tard, à Schlestadt, il entra chez un pâtissier-restaurateur en qualité de marmiton. Le jour même de son entrée en fonction, son nouveau patron était invité à une noce. Après lui avoir préparé tout l'ouvrage, il s'en alla en lui disant « Toute la fournée est prête, tu n'as absolument qu'à allumer un bon feu et à le surveiller pendant toute la soirée. »« Mais maître, dit-il, avec quoi dois-je faire du feu ?»« Bon, en voilà une question. N'ai-je pas assez de bois dans mon bûcher ?» Mais quand même, il n'y aurait pas un brin. Est-ce que tous les bancs et toutes les tables qui sont ici ne suffiraient pas amplement pour allumer 10 fours comme celui-ci ? Une fois seul, Till brisa sans sourciller les tables, les chaises et alluma avec les débris un feu si ardent qu'il calcina toutes les pièces de la pâtisserie. Cet exploit accompli, il mit son sac sur le dos et reprit ses pérégrinations vagabondes. Quand le pâtissier constata le lendemain tout le dégât que lui avait causé ce maudit marmiton, il reconnut immédiatement la main de Lenspiegel, qui avait pour principe d'exécuter toujours à la lettre ce qu'on lui disait de faire. À l'époque du carnaval, Till arriva à Erstein. Tous les gros bourgeois de l'endroit faisaient partie d'un cercle appelé le cercle des Franlippeurs. À l'occasion des fêtes du Mardi Gras, ils avaient organisé un grand banquet et deux d'entre eux avaient été chargés de l'achat des provisions. Ils avaient déjà en réserve poissons, volailles, légumes, rôtis, sucreries, etc. Le gibier seul faisait défaut et les Franlippeurs aimaient toujours le gibier et principalement le lièvre. Malheureusement, il était très rare cette année et malgré toutes les recherches, on avait pu encore en dénicher un seul. Quand il connut cela, son parti fut vite pris. Il demanda secrètement à la femme de l'aubergiste chez lequel il logeait une vieille peau de lièvre, se procura ensuite un chat de gouttière tout vivant, cousit le chat dans la peau et après s'être habillé en paysan de la campagne, alla l'offrir au commissaire chargé des achats. Ceux-ci s'empressèrent d'autant plus de l'acheter, sans marchander, que le soi-disant lièvre étant vivant, ils étaient bien certains de l'avoir frais. On l'enferma dans la petite cour du bailliage, car il ne devait être tué que la veille du banquet. Dans la journée, les commissaires enchantés de leur acquisition amenèrent chez le bailli un certain nombre de membres du cercle pour leur faire admirer le beau lièvre qu'ils avaient acheté. Mais tout à coup, le chien du greffier se lança à la poursuite de la bête qui, tout effaré, se sauva et en deux bonds grimpa sur un arbre en poussant plusieurs miaux, 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 plaintifs. Les assistants se regardèrent étonnés et s'en allèrent en s'excusant auprès des commissaires de ne pouvoir venir goûter leur rôti de chat. Till, ayant entendu parler d'un marchand de vin qui demeurait à Benfeld et passait à 10 lieues à la ronde, pour l'homme le plus madré et le plus rusé que l'on pût trouver, résolut de se mesurer à lui. Jetant un vaste manteau sur ses épaules, il prit deux énormes cruchons identiques, dont il remplit l'un d'eau claire, puis, s'étant rendu auprès de l'individu en question, lui demanda à lui acheter de son meilleur vin et lui présenta le cruchon vide, en ayant soin de dissimuler le second sous son manteau. L'autre prit le cruchon, descendit à la cave et le remplit de vieux vin blanc. Remontant ensuite, il remit le cruchon à Till en lui disant « Cela fait 10 gluten, vous que vous me devez. Comment ?»« Comment 10 gluten ?» riposta-t-il. « Oh, ben c'est bien trop cher. Et de plus, je n'ai pas cette somme sur moi. »« Bah alors, rendez-moi mon vin !» fit le marchand furieux. « Ce n'est pas la peine de demander du meilleur vin et de me déranger, du moment que vous n'aviez pas de quoi me payer. » Et tout en grommelant entre ses dents, il prit le cruchon plein d'eau que lui tendait-il, et redescendit à la cave le vider dans le tonneau par la bonde. Il était refait, sans pas douter. Une de ces dernières et non moins curieuses aventures de Till fut celle qui lui arriva avec le curé Molsheim, chez lequel il était entré comme domestique. Un soir, le curé lui dit « Oh, tu vas bien me nettoyer la voiture et tu la graisseras ensuite, afin qu'elle soit toute prête pour demain matin, car tu auras à me conduire avec mon vicaire à la fête patronale des Chaux. » Till commença aussitôt son travail et après le nettoyage, il se mit à graisser la voiture. Mais au lieu de s'en tenir aux roues, il passa partout avec son sein doux, sans oublier le siège, toujours d'après sa louable habitude de prendre à la lettre tous les ordres qu'il recevait. Le lendemain, avant que le jour parût, ils se mettaient en route tous les trois, le domestique, le curé et son vicaire. Au bout d'un instant, le curé, qui voulait changer de position, mit les mains sur le siège qu'il sentit tout gras. Il fit aussitôt arrêter la voiture et constata sa grande stupéfaction que tout l'intérieur avait été frotté avec du sein doux. Pendant que le curé et son vicaire nettoyaient leur place en injuriant-il à qui mieux, celui-ci résolut de pousser plus loin encore sa malice. Dans cette intention, il enleva l'écrou et la vis qui reliaient les deux parties de la voiture entre elles. Puis, se remettant en place, il fouetta ses chevaux et partit au galop. Mais voilà l'arrière-train qui resta en plan avec le vicaire et le curé qui faisaient des gestes désespérés, pendant que Till filait à toute vitesse avec les deux roues de devant. Oh, je pourrais continuer à raconter une centaine d'autres aventures du même genre, mais j'aurais peur de fatiguer les auditeurs. Je passerai également sous silence la mort de Till, qui fut non moins originale que sa vie. Comme Rabelais, il put aussi dire en expirant « La farce est jouée ». Quand on arriva au cimetière pour mettre son cercueil en terre, la corde qui soutenait le côté des pieds vint à casser et le cercueil tomba tout droit dans la fosse. De cette manière, Eulen Spiegel, même mort, se trouvait debout sur ses pieds, position plus qu'extraordinaire et qui répondait entièrement à ses habitudes passées. On considéra cet événement comme un merveilleux hasard et, de nos jours, on peut encore lire sur sa tombe à Reinsheim, où il est enterré l'épitaphe suivante, « Till, toujours debout, original en tout, année 1350. »
Comme vous l'avez annoncé il y a 15 jours, Dominique va vous proposer de suivre les aventures de Ptolémée. Il s'agit d'une sorte de récit initiatique, un récit
oui.
d'apprentissage.
Oui, tout à fait. Donc le fils de Cléopâtre. Donc on va commencer cette aventure, il a 13 ans. Et Cléopâtre lui demande de le faire grandir, hein, de lui apprendre la vie d'homme, de lui faire aimer son pays. Et pour cela, donc il est... À travers des récits et des histoires, enfin comme nous on dit à nos enfants les histoires de fées et de choses, donc on verra au fil des émissions comment il va apprendre la sagesse, voilà comment il va grandir et va se mettre en état d'adulte.
Donc, nous passons donc de l'Alsace à l'Égypte.
À l'Égypte, et tu vois donc.
Quel choc.
On avait pas très chaud, et là je donne un petit coup de chaleur. Avec les temps qu'il fait, on en a besoin. Donc on va essayer dans une première partie effectivement d'introduire, hein, de mettre en place ces histoires, et puis si on a le temps, j'en lirai une au départ. Et comme ça au moins ça permet de situer.
On campe le décor. Donc.
Voilà. Et ben voilà une chose qu'elle est bonne. Au temps très ancien plus encore qu'on ne saurait le dire, à l'époque où les hommes pour écrire ne traçaient pas de lettres mais des signes qui semblaient des dessins, à l'époque où l'on ne racontait pas encore aux enfants des histoires de princes courageux, de princesses aux yeux blonds, de dragons, de djinns, d'animaux surnaturels, de vieillards pleins de sagesse, de magiciens cruels, de nains ou de gracieuses fées de la forêt, dans ces temps reculés qui se perdent dans la brume des siècles, parmi les sables brûlants d'un immense désert, se créa un royaume prospère et glorieux, celui de l'antique Égypte. Au mystérieux pays d'Égypte se dressent vers le ciel ces hautes constructions édifiées de mains d'hommes et que l'on appelle pyramides. Cette terre est le fruit de deux miracles. Miracle du soleil dont la lumière donne vie aux hommes, aux animaux, aux plantes et aux pierres, et miracle du Nil dont les eaux sacrées fécondent l'Égypte, quittant chaque année leur lit pour déposer dans les champs une terre noire et fertile. Dans ce lointain pays régnaient, en ces temps reculés, les puissants pharaons qui étaient plus puissants que tous les autres souverains réunis. Ils vivaient dans de magnifiques palais de briques précieuses et édifiaient d'immenses temples de pierre où les prêtres célébraient le culte de Ré, le dieu soleil. Les gens croyaient que le soleil était le souverain seigneur du monde et que son pouvoir magique régnait sur la terre ou sous la terre, sur les eaux ou sous les eaux, et que sa force surnaturelle décidait de leur destin. Ils y croyaient aussi que Ré, le Tout-Puissant, était l'ancêtre de tous les grands pharaons qui, après leur mort, prenaient place dans la barque d'or du soleil et voguaient par les cieux éternels le jour et la nuit. Notre histoire commence un temps où la gloire de l'ancienne Égypte pâlit, où sa longue histoire touche à sa fin, où ses ans et ses jours sont comptés. Pourtant, le Nil devra encore 30 fois s'échapper de son lit et 30 fois répandre ses eaux sur la terre environnante avant que vienne l'année qui est la première de notre calendrier. Sur l'Égypte régnait alors le dernier hameau d'une lignée de glorieux pharaons qui avaient dirigé le pays depuis plus de 3000 ans, la reine des rois, la belle et sage Cléopâtre. Sur le Nil voguait le vaisseau royal, sa proue étincelait d'or et ses voiles de pourpre. Les rames d'argent frappaient la surface de l'aude, son luth et du fifre. Sous une tente d'or, à l'avant du navire, la reine Cléopâtre était étendue sur sa couche et auprès d'elle se tenait son fils Ptolémée Césarion, âgé de 13 ans, et le scribe royal, le plus savant et le plus sage d'Égypte. Ils s'entretenaient ensemble. Cher enfant, dit la reine, sache que bientôt je remettrai entre tes mains le gouvernement du royaume. Le métier de souverain est dur. Je sais que je dois te préparer à tes futurs devoirs. C'est pourquoi j'ai entrepris avec toi ce long voyage sur le Nil pour te montrer notre beau pays, t'apprendre à le comprendre et à l'aimer. Puis elle se tourna vers le sage vieillard. Scribe fidèle, écoute mes paroles. Pendant notre voyage, tu seras le précepteur de mon fils. Je veux que tu fasses de lui un homme sage. Puissante reine, noble prince, répondit le vieillard, cela n'est pas une tâche facile. La sagesse est le fruit de l'âge et de l'expérience. Notre glorieux prince est encore bien jeune. Alors chaque jour, dès que se montrera dans les cieux le vaisseau d'or du tout-puissant Ré, le dieu soleil, tu conteras au prince un glorieux épisode de notre histoire, épisode que tu choisiras toi-même. Tu devras y penser d'ici demain, lui expliqua la reine. Les eaux du fleuve s'écoulaient, lentes, permanentes, entre deux murs de rochers. Dès le matin, une vapeur bleutée s'élevait au-dessus de ses flots. Ses rives résonnaient des chants d'oiseaux et des stribulations des cigales. « Regarde, Césarion !» dit le scribe. Dans l'air brûlant, se dessinaient au loin les pyramides, ces énormes tombeaux de pierre que, dans le passé, les puissants pharaons s'étaient fait construire. Sous ces montagnes de pierre se trouve le sombre labyrinthe, les escaliers, les chambres funéraires qui recèlent le corps du pharaon, les monnaies, les trésors qui décorent sa tombe, expliqua le savon. Un peu plus loin se présentèrent des carrières abandonnées, d'où s'était retirée la vie et, avec elle, le travail. On en avait tiré jadis d'énormes pierres que le peuple, sur des chars ou des embarcations, transportait jusqu'au lieu où d'autres les chargeaient sur des traîneaux de bois, les traînant à travers les sables jusqu'au chantier de construction des pyramides et des temples. « Hélas, fils bien-aimé, soupira la reine, qu'ils sont loin ces temps glorieux. Seul le Nil, père des eaux, sous le ciel bleu et brûlant, soleil de Ré, le tout-puissant dans l'ardent désert qui entoure cette verte vallée, survit au siècle passé. » Oui, puissante reine, notre pays est éternel, reprit le scribe. Je sais ce que je vais conter au prince. Je lui raconterai notre patrie. J'ai étudié les papyrus les plus anciens. J'ai déchiffré les hiéroglyphes qui couvrent les murs de nos temples. Je lui transmettrai chaque jour l'histoire de ses pères, les contes et légendes ou les hauts faits des glorieux pharaons qui se sont succédés sur le trône depuis que Ménès a réuni le royaume de la Haute-Égypte et celui de la Basse-Égypte en un seul empire. Et a mis sur sa tête la blanche couronne et la couronne avec le signe du cobra, l'urus sacré. Le premier jour, Ré, le dieu soleil, apparut éveillant à la vie la terre, les airs et les eaux. Les poissons montaient à la surface, attirés par les clartés du jour, et s'ébattaient auprès des rames argentées qui frappaient légèrement les eaux agitées du fleuve. Un vent léger soufflait, le vaisseau royal s'avançait lentement. Sous sa tente d'or et sur sa couche dorée, la reine Cléopâtre posait, allongée. Son fils, le prince Césarion, et le scribe royal se tenaient auprès d'elle. « Voyez !» leur dit la reine. « Déjà les portes de l'Orient se sont ouvertes pour livrer passage à la barque de mon père tout-puissant, Ré, le resplendissant. »« Il n'est rien de plus beau dans le monde, reine vénérée, » lui répondit le scribe. Tu as promis de nous entretenir des temps passés, digne savant. Nous t'écoutons. Je meurs d'impatience, supplia le prince Césarion. Ah, mon fils, quelle impatience! Vois, scribe, quelle ardeur sur son visage. Moi-même, je me sens mordu par la curiosité. Va, quel récit nous as-tu préparé? Puissant reine, noble prince, je vous conterai aujourd'hui l'histoire du dieu soleil Ré, le Tout-Puissant, et des grands pharaons, vos glorieux ancêtres, qui régnèrent il y a si longtemps que leur nom s'est perdu. À une époque si ancienne qu'elle se perd dans la nuit des temps comme l'eau dans le sable, deux frères vivaient sur la rive du Nil. En ce temps, Ré le Tout-Puissant, le dieu soleil, habitait encore sur la terre et régnait sur l'Angie, premier de tous les glorieux pharaons. Parvenus à l'âge d'homme, les deux frères tombèrent tous deux amoureux de la même jeune fille. Enfant d'un paysan du voisinage, la jeune fille donna la préférence à l'aîné et se promit à lui. L'envie remplit soudain le cœur du cadet. Or, de l'envie à la haine, la distance est vite franchie. Le jeune homme se mit à chercher les moyens de supplanter son frère et d'attirer sur lui la sympathie et l'amour de la jeune fille. Il imagina un stratagème. Il prêta à son frère un poignard en cuivre qu'il lui vola pendant la nuit. Le lendemain, il réclama son bien et, comme son frère ne pouvait le lui rendre, il l'accusa de vouloir le voler. Puis, il exigea que son frère l'accompagne par devant Ré le Tout-Puissant afin qu'il leur rende justice. Quand les deux frères se furent prosternés devant Ré, qu'il leur eut demandé avec bienveillance ce qui les amenait, le plus jeune déclara « Seigneur Tout-Puissant, souverain des cieux, des vents, Ré, Dieu des dieux, hier j'ai prêté à mon frère mon poignard de cuivre et à présent il refuse de me le rendre. Il prétend l'avoir perdu. Je pense, moi, qu'il veut me le voler. Comment serait-il possible de perdre un poignard si grand que, quand sa poignée avoisine la montagne d'elle, sa pointe touche au bois de Bacan? J'accuse mon frère aîné d'être un voleur. » Ré, le Tout-Puissant, se tourna vers l'accusé. « Est-il vrai que tu n'as pas rendu à ton poignard, à ton frère, qu'il t'avait prêté ?»« Tout-Puissant Ré, c'est vrai que j'ai emprunté hier à mon frère son poignard, mais il a disparu pendant la nuit et c'est en vain que je l'ai cherché ce matin. » Comment pourrais-je rendre ce qui n'est plus en ma possession ? Se défendit l'aîné. Et s'il était aussi grand que le dit mon frère, comment serait-il possible de le cacher ? Il aurait pu le déposer dans le Nil, répliqua vivement le cadet. As-tu emprunté le poignard ? Demanda Ré encore une fois. Je le lui ai emprunté, répondit le malheureux jeune homme. Alors tu le lui as volé, ton Ré. Voler son frère est un affreux péché. Quelle punition réclames-tu ? Reprit Ré en se tournant vers le plaignant. Qu'on prive mon frère de la vue et qu'il serve chez moi comme portier, répondit le cadet. Qu'il en soit ainsi, décida Ré le Tout-Puissant. Le jeune frère, ce menteur misérable, était persuadé que la jeune fille ne pourrait continuer à aimer un aveugle et qu'il pourrait ainsi la prendre pour épouse. Mais la jeune fille fut fidèle au pauvre aveugle, elle s'occupa de lui avec tendresse, soulagea ses souffrances et prépara leurs noces. Quand le jeune frère apprit ses préparatifs, il se mit en fureur comme un taureau sauvage. Il ordonna à ses serviteurs d'emmener le portier dans le désert et de l'offrir comme croix au lion. Et, pour preuve qu'il avait bien rempli leur mission, il devait rapporter les os de la victime. Mais les serviteurs eurent pitié du malheureux. Ils le conduisirent en cachette au domicile de sa fiancée et supplièrent la jeune fille de s'enfuir avec l'aveugle la nuit même vers le sud. Ils apportèrent de leur maître les os d'un criminel qu'on avait pendu et qu'ils avaient acheté au gardien du cimetière. Le jeune frère, persuadé que son aîné avait cessé de vivre, se mit à la recherche de la jeune fille, mais en vain. Elle avait disparu. Aucun de ses voisins ne pouvait dire où elle était passée. Il semblait que sur la terre, même la terre l'eût engloutie. Cependant, les deux fiancés s'étaient installés dans le sud de l'Égypte. Ils s'étaient construit une belle maison et y avaient célébré leur mariage. Bientôt, il leur naquit un fils. C'était un bel enfant vigoureux. En grandissant, il se révéla également intelligent et comblé de dons. En classe, il apprenait mieux que tous ses camarades et bientôt il surpassa ses maîtres en écriture et en art militaire. L'enfant aimait très tendrement ses parents, surtout son malheureux père. Il lui portait la nourriture que cuisinait sa mère et lui préparait ses boissons. Les années passèrent et l'enfant devint un beau jeune homme. Un soir, alors que le père se reposait, son fils, assis à ses pieds, lui demanda « Mon père, qui t'a privé de la vue ? Je voudrais en tirer vengeance. »« Mon jeune frère, » répondit le premier. Et il raconta à son fils sa triste histoire. Aussitôt, le jeune homme se mit en route. Il emporta 10 miches de pain, une dague acérée, chaussa ses sandales et prit la canne du pèlerin. Il emmenait avec lui un taureau vigoureux. Il chemina longtemps et arriva enfin dans une prairie où le berger de son oncle Félon gardait un troupeau de taureaux. Il lui dit « Prends ma canne, mon outre, ma dague et surveille mon taureau jusqu'à ce que je revienne de la ville. » Les lunes se succédaient, mais le jeune homme ne revenait pas. Le berger, pendant tout ce temps, prenait soin de la bête de l'étranger. Un jour, le jeune frère alla au champ pour admirer ses grands troupeaux. Il vit un taureau particulièrement beau et fort et dit à son berger « Amène-moi demain ce taureau, j'en ferai mon dîner. »« Mais il ne nous appartient pas, je ne peux pas te le donner. » »« Tu sais bien que tous ces animaux m'appartiennent, je te les ai confiés et tu les fais paître sur mes terres. »« Ce taureau m'appartient donc, » répondit le maître. En ville, le jeune homme apprit que son oncle s'était emparé de son taureau et revint trouver le berger. « Où est mon taureau ? » demanda-t-il. « Je ne l'ai pas vu dans le troupeau. » « Je ne l'ai plus. Mon maître l'a fait abattre. Choisis-en un autre dans le troupeau. Quel autre de ces animaux pourrait reposer ses pattes de devant sur l'île d'Amon tandis que sa feu toucherait au lac des Souchets ? Et quel autre pourrait, en un jour, engendrer 60 veaux ? Aucun de tes taureaux n'est aussi grand que ne l'était le mien. »« Tu te moques ?» répondit en riant le berger. « Aucun animal n'a la taille que tu prétends. » Le fils demanda au berger de le conduire auprès de son maître. Et le même jour, le jeune homme et son oncle allèrent se prosterner devant Ré le Tout-Puissant et lui demandèrent son arbitrage. Ré déclara « Jamais encore je n'ai vu un taureau de cette taille !»« Et avais-tu vu, souverain seigneur de ce monde, un poignard de cuivre aussi grand que celui dont il y a des années t'a parlé mon oncle Félon ?» demanda le jeune homme. « Rends-moi justice, ô grand Ré, car sache que je suis fils de l'aveugle. J'ai juré de venger mon père. Rends le même jugement que celui que tu as rendu alors. Je t'en prie, sois équitable. »« Eh bien, homme, » demanda Ré au frère cadet, « qu'en dis-tu » Celui-ci essaya de se justifier par tous les moyens, mais quand il vit que ses discours n'avaient aucun résultat, il déclara « Sache, tout puissant maître du monde, que mon frère est mort il y a bien des années. Il ne compte plus au nombre des vivants depuis bien avant que ce misérable menteur soit né. Mais s'il est encore en vie, comme le prétend ce coquin, que mes serviteurs me privent de la vue et que je devienne portier de sa demeure. » C'est ce qu'attendait le jeune homme. Il ne perdit pas de temps et alla quérir son père aveugle qui l'amena devant Ré le Tout-Puissant. Dès que Ré l'aperçut, il déclara « Je te reconnais, homme courageux et honnête. Pardonne-moi d'avoir rendu un jugement aussi trop prompt. Pour acheter le tort cruel que je t'ai fait, je te rends la vue, et en même temps la force et la jeunesse. Quant à toi, misérable traître, reprit le maître du monde en se tournant vers le frère cadet, je te livre à mes fidèles serviteurs. Qu'ils t'administrent 100 coups de bâton, qu'ils te crèvent les yeux et qu'ils te conduisent à la demeure de ton frère aîné, jusqu'à la mort, et tu le serviras comme portier, j'ai dit. » C'est ainsi que le courageux jeune homme vengea son père et punit son oncle félon et cruel. Et comme beaucoup de gens étaient semblables au mauvais frère, comme il voyait parmi eux un grand nombre de menteurs et de coquins, Ré le Tout-Puissant s'abandonna à un juste courroux et quitta le séjour terrestre pour se réfugier dans les cieux qu'il parcourt depuis ce jour dans sa nef d'or.
Eh bien, quel beau voyage, l'Alsace, l'Égypte, de
compris.
Très belles aventures.
Voilà, tu as compris pourquoi maintenant le soleil, il était dans le ciel. Quoi.
Eh oui. on se donne rendez-vous dans 15 jours pour les nouvelles aventures de Ptolémée.
Oui, on va suivre et puis voilà, j'espère préparer. Cette fois, on ira peut-être en Picardie. On continuera
pas de prononciation difficile.
Voilà, parce que moi c'était trop
Picard.
Dur. Je suis désolée pour les
Non, 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 tu t'es bien débrouillée quand même. Tu t'es bien débrouillée, puisque j'avoue que c'est pas évident.
C'est pas évident, hein?
Non, c'est
Merci
pas évident.
Merci Agathe.
À bientôt Dominique
et bien
encore merci.
C'était un plaisir.
Et excellente journée à vous tous sur Fréquence Mistral.
Au revoir.